Vous savez, il y a une chose qui me rend la vie beaucoup plus sereine ces derniers mois et elle s'appelle Furbo. Furbo est la caméra rotative à 360 degrés que j'ai installée dans mon appartement. Elle m'avertit par exemple lorsque Haiku ou Mariko sont malades ou s'ils courent partout et aboient frénétiquement en proie à un stress intense. En plus, grâce à cette surveillance avancée, je peux dire adieu à d'éventuels cambriolages. Car avec l'abonnement Furbo Dog Nanny, on reçoit à la fois des alertes instantanées en cas d'intrusion et un journal d'activité quotidien de notre chien. Pour l'avoir testé, je peux dire que cet abonnement est génial. Il offre des fonctionnalités indispensables à mes yeux et aujourd'hui, je ne pourrai plus m'en passer. Et quand ils sont sages comme des images, vous pouvez même demander à Furbo de leur distribuer des friandises. Oui, oui, Furbo fait ça aussi. Bonne nouvelle mes chouchous, grâce au code promo CHOU10, CHUU10, vous bénéficiez actuellement d'une réduction de 10€ sur tout le site. Alors moi je dis, merci encore Furbo, et maintenant, place à notre nouvel épisode. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez CHOU, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Dans la Minute Santé, je reçois un vétérinaire, un spécialiste de la santé canine, qui nous fait profiter de ses connaissances et de son expérience. Pour préserver leur bonne santé, savoir quoi faire, quand et comment, voici un nouvel épisode de la Minute Santé. Bonjour docteur.
Bonjour.
Eh bien alors aujourd'hui, on va parler de vaccination car nous sommes très nombreux à nous poser des questions sur cette pratique qui reste souvent très floue pour nous. Alors j'ai préparé plusieurs questions pour que vous puissiez nous aider à y voir un peu plus clair. Alors est-ce que vous êtes prêts ?
Oui, alors sujet très sensible, très polémique et je dis tout de suite, ici dans la clinique, on n'est pas anti-vax. Au contraire, on est très pro-vax mais on est anti-survax. Donc pas faire tout et n'importe quoi, chaque année, c'est ça, ça nous choque.
Voilà, exactement. Et c'est ça qu'on veut entendre. Alors, est-ce que déjà, il y a des vaccins qui sont obligatoires ?
Alors, aucun vaccin n'est obligatoire. Première chose, certains sont recommandés. Le seul vaccin obligatoire, c'est la rage pour aller à l'étranger. Alors, il y a eu un cas de rage la semaine dernière. On a su qu'il y avait une femme qui était morte de rage, griffée par un chat qui venait du Maghreb. Elle est allée au Maghreb, elle a caressé un chat qui l'a griffé, mordu même, son compagnon aussi. Et elle a été hospitalisée, c'est récent, c'est fin septembre. Et le lendemain, elle est morte parce que quand elle était hospitalisée, elle avait signe neurologique. Donc, une fois qu'on a les signes neurologiques, c'est foutu. Donc, peut-être que la rage va redevenir obligatoire suite à cet épisode. Mais pour l'instant, personne n'a le droit en France d'exiger un vaccin rage, ni les campings, ni les hôtels, ni les élevages, ni les expos canines. C'est légalement pas du tout obligatoire. Et puis alors, ce qu'on peut exiger comme vaccin, mais ils n'ont pas la mention obligatoire, ils sont très très recommandés, et c'est en fonction des événements, quand on regroupe des chiens, il y a certains vaccins qui sont exigés, mais c'est, à la limite, ce n'est pas légal, aucun vaccin n'est obligatoire.
Ok, alors quels sont les vaccins recommandés, essentiels pour les chiens ?
Alors, d'abord, tous les chiens ne sont pas à la même enseigne. Un vaccin, c'est une vraie consultation. Moi, je n'appelle pas du tout ça un vaccin annuel. J'appelle ça une consultation annuelle au cours de laquelle on fera ou non un vaccin. Et dans cette consultation, il faut demander quel âge a le chien, quel est son mode de vie, est-ce qu'il vit seul, est-ce qu'il vit avec d'autres animaux, avec d'autres espèces animales, etc. Et en fonction de ça, on décide de vacciner contre telle ou telle maladie ou pas. Donc, faire tous les vaccins chaque année sur tous les chiens, pour nous, ce n'est pas du tout correct. Et j'insiste sur le fait que c'est une consultation. Vacciner un chien par terre sans le regarder, c'est pas normal. Et en médecine humaine, quand je vois qu'on vaccine dans les arrière-boutiques de pharmacie contre le Covid, sans jamais, même pas un interrogatoire aux gens, nous, on avait créé ici dans notre petite ville un centre de vaccination où c'était des médecins et des infirmiers qui posaient des questions, qui faisaient un interrogatoire, etc. Mais quand je vois qu'on vaccine n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, je suis scandalisé. Les chiens, c'est pareil. On le met sur la table. On fait un examen clinique complet. Moi, je rajoute un examen des poux chinois, mais chacun fait ce qu'il veut. Et on décide éventuellement, s'il y a des signes cliniques de quelque chose, un, de ne pas vacciner, deux, de régler le problème clinique et éventuellement de faire une prise de sang. Mais c'est une consultation complète avec un interrogatoire complet. Et dans le prix du vaccin global, il y a le prix de la consultation plus le prix du vaccin. C'est pas un vaccin ne vaut pas 50€. Le vaccin, très souvent, il vaut 10-15€. Mais il y a le prix de la consultation en plus. Donc, si on ne fait pas de consultation, ben, ce n'est pas correct.
Donc, il n'y a pas des vaccins, de manière générale, qui sont recommandés
pour tous les
Alors,
chiens.
Alors, les vaccins recommandés, je ne prendrai pas ce terme-là,
oui.
pas pour tous les chiens. Il y a, pour chaque vaccin, il y a une discussion possible. Donc, les vaccins qu'on fait, ce qu'on appelle les maladies du jeune chien, ok, carrés, hépatite, gastro-entérite, toute chenille, ok, on les fait. Le premier vaccin à faire, c'est 2 mois si la mère n'est pas vaccinée, et c'est 3 mois, puisque les anticorps maternels protègent jusqu'à 3 mois et empêchent même la primo-vaccination de fonctionner. Donc si la mère est vaccinée, ce qui est le cas très souvent, il faut attendre 3 mois. On fait un vaccin à 3 mois, un vaccin à 4 mois. Donc le trépied de l'immunité, c'est primo, rappel un mois, rappel un an. Donc on fait un vaccin quand le chien a 3 mois, on fait un vaccin quand le chien a 4 mois et on fait un vaccin quand le chien a 16 mois. Et à partir de là, le trépied de l'immunité est bien installé. Et sur la plupart des vaccins, on peut espacer ensuite. C'est le vaccin annuel complet contre tout. On va prendre maladie par maladie, hein, pour bien être clair. Mais de faire tous les vaccins chaque année, pour nous, c'est de la malhonnêteté.
Alors justement, vous disiez vaccin complet. On sait que souvent, les vaccins sont utilisés sous forme de combo,
oui.
avec plusieurs vaccins
oui.
utilisés ensemble.
Oui.
C'est ça ? Comment ça fonctionne ?
Alors ça, c'est tout à fait légitime, parce que les vaccins couplés, combo, comme vous dites, c'est très intéressant parce que ça stimule l'immunité. C'est-à-dire que quand... Alors, je ne parle pas de 11 vaccins comme on fait sur les bébés, où là, c'est vraiment très discutable. Mais nous, quand on fait des vaccins complets, le maximum, c'est 5-6 valences. Et c'est tout à fait justifié parce que chaque valence, d'ailleurs, est identique dans le flacon. On pourrait faire 5-6 flacons différents. D'un point de vue coût, ça serait économique, ça serait débile, sachant que les vaccins s'associent très, très bien. Carré, hépatite A, hépatite B, gastro-entérite et toute chenille, ça fait 5 valences, ça se fait très bien.
Valence, vous voulez dire quoi ?
5 valences de vaccins. Une valence, c'est une valence contre une maladie. Une maladie de carré, c'est une maladie virale. L'hépatite de Rubart, c'est une maladie virale qu'on n'a pas vue depuis des années. Les maladies de carré, on en voit sur les chiens non vaccinés, donc c'est recommandé. Mais j'allais dire, ça ressemble un peu au tétanos chez l'homme, le fameux DTPOLO que plus personne ne fait, qui était un vaccin génial avec des vaccins, avec des virus tués, pas avec des virus vivants, donc sans aucun effet secondaire, sans danger, et qui tenait pendant des années et des années. Donc, pour revenir à la question... Vaccin combo, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regrouper les valences qu'on est obligé de faire à espace identique, c'est logique. Mais par exemple, le vaccin contre la leptospirose, qui est une maladie transmise par l'urine des rats, la leptospirose, c'est une bactérie qui touche l'homme, le chien, le cheval, etc., même les bovins. Donc c'est une maladie qu'on contracte dans l'eau. Si on ne touche pas l'eau, on ne chope pas la leptospirose. Et cette leptospirose est une maladie qui, on sait bien que le vaccin immunise entre 11 et 13 mois. Donc le rappel annuel est tout à fait justifié. Surtout dans les zones où il y a beaucoup de marécages sur les chiens de chasse qui vont tout le temps au marais, etc. Là, on vaccine même 2 fois par an. Dans les dombes, par exemple, la partie des étangs des dombes au nord de Lyon, on vaccine 2 fois par an contre la leptospirose. Parce qu'il y a des ragondins, parce qu'il y a des rats, parce qu'il y a, il y a plein de rongeurs qui peuvent transmettre ça.
D'accord, ok.
Mais par contre, carré, hépatite, gastro-entérite, toute chenille virale qui est dans le vaccin para-influenza 3, le PI3, hein, le CHP-PI3, CH2, parce qu'il y a 2 hépatites, A et B, PI para-influenza 3, et le parvovirose, CHP-PI, le P c'est le parvovirose, le PI c'est le para-influenza, c'est le virus. Celui-là, on le fait tous les 3-4 ans, c'est très bien.
Oui, parce que j'avais demandé, je sais qu'il y a des vaccins qui sont faits selon le mode de vie.
Oui.
Donc, par exemple, des chiens qui vont souvent dans les écuries. Est-ce qu'ils vont devoir être vaccinés pour
Alors, c'est pas bête comme question. Et en même temps, le tétanos chez le chien est quand même très, très rare. Mais un chien tétanos, il s'en sort pas. Hein. Un chien tétanos, c'est très compliqué. Et donc, effectivement, les chiens qui vivent dans les écuries, dans les clubs hippiques, etc., on peut les vacciner contre le tétanos.
Donc ça, on a
Mais
vu.
Mais c'est rare, c'est très rare quand même.
Ok. Après, on a vu les chiens de chasse qui vont dans les marécages.
Oui. Ça, leptospirose chaque année.
Leptospirose chaque année. Est-ce qu'on peut peut-être citer voilà, quelques noms de vaccins et comprendre quels sont leurs...
Alors, les vaccins carré, hépatite, gastro-entérite, toute chenille, le vaccin des jeunes chiens, on le fait pratiquement sur tous les chiens. J'insiste sur les 3 mois si la mère est vaccinée. Rappel un mois, rappel un an, et à partir de là, on peut le faire tous les 3-4 ans. Ça dépend si le chien est très à risque de rencontrer beaucoup de chiens. Si c'est un chien qui vit plutôt de façon individuelle, le rappel, on peut l'étaler même d'après les labos, certains labos, jusqu'à 5 ans.
Et ça, c'est en combo.
C'est carré, hépatite, gastro-entérite, toute chenille. C'est HPPI.
Okay. Je ne savais pas que la toute chenille était dedans, parce que moi, on m'avait dit par exemple
la toute chenille virale. Attends, la toute chenille virale. Mais le para-influenza. comme le virus de la grippe humaine, c'est un para-influenza, ce fameux virus para-influenza de la grippe aviaire, de la grippe humaine, etc. Bon, bref. Ensuite, il y a la toux de chenille, bactéries et virus. Et celui-ci, on le fait par voie nasale et on ne le fait pas systématiquement, on le fait sur les chiens qui sont appelés à se regrouper dans des expos canines, dans des concours de chiens
en pension,
de travail, etc.
Souvent, ils
pension,
le demandent.
Ben, les pensions, elles le demandent systématiquement. Et il y a beaucoup de pensions qui disent si votre chien n'est pas vacciné avec le vaccin nasal, qui s'appelle Cassé, je ne sais plus pourquoi il s'appelle Cassé, il y a un seul labo qui le fabrique, donc il n'y a pas de choix de labo, il n'y a pas de contrat à avoir avec tel ou tel labo, on est tranquille, il y a un seul fabricant. Et ça, on le fait systématiquement avant, même dans les 8 jours qui précèdent. On sait qu'on va faire une expo canine, on sait qu'on va mettre son chien, par exemple le 1er juillet, on va mettre son chien en pension, ben on fait le vaccin le 20 ou le 25 juin.
Ça, c'est un an, la durée de...
La durée est approximativement d'un an, mais surtout, c'est plus on le fait près de la mise en communauté de chiens, plus c'est intéressant.
Mmh. Okay.
Plus c'est, ça marche bien, ça marche très très bien ce vaccin. C'est un machin vachement intelligent parce que ça inonde les voies respiratoires par lesquelles rentre le virus. D'ailleurs, j'ai été très surpris que pour le coronavirus, on n'ait pas fait un vaccin comme ça, local. Ça inonde les voies respiratoires et ça empêche le virus de particules atténuées. On provoque une immunité locale. Donc le virus sauvage, quand il rentre par le nez, par les voies respiratoires, il est immédiatement flingué par les immunoglobulines. Donc, c'est une immunité locale très intelligente.
D'accord. C'est le seul vaccin qui se fait comme ça
À ma connaissance, oui. Okay. À ma connaissance, oui. Mais je pense que j'étais persuadé qu'en médecine humaine, on ferait un vaccin nasal parce que ça se fait très, très bien. Le coronavirus existe dans d'autres espèces. Nous, on a un vaccin contre le coronavirus du veau, par exemple, depuis 40 ans, qui marche très, très bien. Mmh. Parce qu'il y a des maladies digestives chez le veau, le coronavirus chez le veau. Alors, c'est pas le même coronavirus que celui qui a envahi la planète là, ces trois dernières années. Mais c'est un coronavirus, donc c'est un virus à ARN. Et le vaccin existe depuis 40 ans chez nous, quoi. Donc, j'étais très surpris de tout ce pataquès qu'on a fait autour des vaccins.
OK. Et après, on a aussi le vaccin... Pour les gens qui habitent dans le sud avec les moustiques.
Ah, le vaccin leishmaniose. Alors nous, on n'a pas touché par la leishmaniose localement. Ça viendra peut-être parce qu'on a des moustiques tigres qui sont remontés jusqu'à Chambéry. Et nous, on n'en a pas encore en Haute-Savoie. Mais Chambéry en Savoie, ça y est, l'Isère, c'est pareil. Donc le moustique tigre, il s'est très très bien adapté. Donc ça veut dire que les moustiques, c'est pas le tigre qui transmet la leishmaniose. Hein. C'est le phlébotome qui est qui a une fragilité, c'est que c'est un gros moustique mais qui ne sait pas bien voler. Comme on dit, c'est pas un bon voilier. Donc, normalement, dès qu'il y a du vent, on est tranquille. Et quand il y a le Mistral dans le midi, en général, on ne craint pas les phlébotomes. Parce qu'ils ne sortent pas par Mistral, ils ne peuvent pas à cause du vent. Pour revenir à la leishmaniose, nous, tous les clients qui ont une résidence d'été dans le midi, ou une résidence secondaire dans le midi, tous les clients qui ont des chiens, on vaccine les chiens. Ça marche très, très bien. Alors, il y avait un vaccin qui s'appelait le canilèche, qu'on faisait trois fois. C'était un peu compliqué, le protocole. Il fallait faire un mois et demi. Et puis un mois, et puis 15 jours avant le départ, etc. Maintenant, il y a un vaccin dont j'ai oublié le nom, tous les vétos le connaissent, qui vient de sortir, qu'on ne fait qu'une seule fois. Et on le fait en rappel chaque année. Et en général, quand les gens commencent à aller dans leur résidence, c'est à Pâques, donc aux vacances de Pâques, donc on le fait début avril, on fait ce vaccin, et chaque année, on le refait en avril. Et ça marche très, très bien, parce que se prévenir des moustiques, ce n'est pas évident.
Ok, donc il y a ce vaccin-là aussi qui existe. Est-ce qu'il y a un autre vaccin comme ça pour des régions particulières ou des...
Alors, il y a d'autres vaccins. Il n'y a pas que les vaccins carré, hépatite, gastro-entérite, toute chenille. Il y a le vaccin leptospirose, celui qui existe depuis très très longtemps. Alors, il y a plusieurs laboratoires parce qu'il y a plusieurs sérotypes de leptospirose. Et on sait que dans le lac d'Annecy, par exemple, on a trois sérotypes de leptospirose. Heureusement, et c'est couvert par le vaccin qu'on utilise. Mais il y a des vaccins qui ont quatre sérotypes. Je crois que c'est L4 qui s'appelle. Et celui-ci a posé des problèmes au point de vue effet secondaire. On a souvent des effets secondaires sur certains vaccins qui viennent de sortir, on le sait bien. Les vaccins qu'on utilise depuis... Moi, je vaccine contre la rage et contre la maladie de carré hépatite gastro-entérite depuis 45 ans. Je n'ai jamais eu de problème, jamais. Leptospirose, quelquefois, on a une réaction locale de 1 ou 2 chiens sur 100. Et puis, le vaccin leishmaniose est très efficace. Il y a deux vaccins dont il faut parler, dont on a parlé à une autre fois de la maladie de Lyme. Le vaccin contre la maladie de Lyme, qu'on ne fait plus pour deux raisons. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il marche très, très bien. Il n'est pas cher, donc ça, c'est déjà bien. Donc, les gens, quand ils sont un peu... Eux-mêmes ont eu une maladie de Lyme ou ont eu un chien qui a fait la maladie de Lyme, ils le prennent. Mais on a arrêté parce que la maladie de Lyme est rare, très très rarement clinique chez le chien. Et il ne protège pas très bien. Il y a un autre vaccin qui est très cher contre la pyroplasmose. On l'a pratiquement jamais fait celui-là parce qu'on trouvait que c'était une arnaque, il protégeait pas très bien. Et tout le monde, c'est un consensus de tous les vétos. Certains vétos adorent le faire encore parce qu'il coûte très cher, mais franchement, il marche pas très bien. Et nous, on a laissé tomber. Nous, on est pour les vaccins, pas tout le temps, pas pour tous les chiens, tous les jours, toutes les années. Et on choisit les vaccins qui sont les plus adaptés à notre région. En fait, c'est toujours pareil, c'est adapté au mode de vie du chien. On ne vaccinera pas de la même façon un chien tout seul qui appartient à une petite dame qui fait le tour du quartier, du pâté de maison avec en laisse, avec un chien de chasse qui vit en meute et qui est en contact avec le gibier, avec des milieux extérieurs, qui va dans l'eau, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, les deux pêcheurs professionnels qui sont sur le lac d'Annecy, on vaccine leur chien parce qu'ils ont tous les deux des labradors qui sont tout le temps dans l'eau. Et donc, ils sont en risque. Donc, ceux-là, on les vaccine tous les 6 mois contre la leptospirose. On s'adapte à chaque chien. Par contre, il y a encore une discussion. À partir de quel âge on arrête de vacciner ?
Alors, j'allais en venir là. Voilà. Mon chien Haïku, il a 12 ans. Je me suis dit, est-ce que ça vaut toujours le coup de le vacciner ?
Alors là, il y a deux écoles. Il y a l'école des immunologistes un petit peu intégristes qui disent un chien qui est âgé, il a une immunosénescence. Son immunité est moins bonne, comme chez l'humain, etc. Donc, il faut le revacciner, il faut même le revacciner plus. Et puis, à l'autre école, qui consiste à dire faire son immunité que contre ces maladies qui sont devenues très, très rares grâce à la vaccination, il faut bien dire la vérité. Nous, la gastroentérite hémorragique, quand c'est arrivé en France en 81, on a perdu toutes les portées de chiots. Tous nos éleveurs ont perdu leurs chiots. Donc, il faut pas... Et on en a encore régulièrement des épidémies de gastroentérite. Mais nous, notre politique, c'est plutôt de dire à partir de 10 ans, on peut se permettre d'arrêter les vaccins, surtout si le chien a été vacciné régulièrement avant. Et quelquefois, nous, on a des chiens de 10 ans qui arrivent chez nous pour la première fois à cause de l'arthrose, etc. Et on s'aperçoit qu'ils ont tout eu chaque année, alors que c'est des chiens qui vivent en ville tranquillement dans un petit appart. Donc, ça nous énerve, donc on ne vaccine plus. Et par contre, on est très vigilant sur stimuler l'immunité globale du chien.
Oui, parce que j'ai aussi entendu, si votre chien sort et va régulièrement dans des endroits où il y a d'autres chiens qui va renifler, donc des urines, des trucs, et qui croise beaucoup d'autres chiens, c'est différent qu'un chien qui est dans un jardin, en campagne, qui n'a pas l'occasion de croiser d'autres chiens et qui ne va pas être dans des terrains sales, on va dire.
Non, mais très honnêtement, sur un chien de 10 ans qui a été vacciné à 10 ans pour la dernière fois, il est protégé jusqu'à 17 ans sur la plupart des maladies. Donc, sauf si vous faites des expos canines, on fait un petit vaccin nasal la veille, sauf si vous allez à l'étranger où vous faire la rage. Et la rage, le protocole est européen maintenant, c'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe, ça a mis du temps à se mettre en place, mais c'est le même protocole, c'est-à-dire qu'on fait une primo, un rappel un an plus tard, et ensuite, c'est tous les 3 ans.
Voilà. Ouais.
Donc là, on est tranquille.
Ok, donc intéressant. Voilà, je ne savais pas si les chiots et les chiens seniors étaient les plus...
Non, mais de toute façon, celui qui est le plus à risque, c'est un chiot non vacciné. Ça, c'est sûr qu'il est à risque. Mais un chien qui a été vacciné à 10 ans, même s'il va renifler, alors on entend tout le temps, il va renifler les crottes des autres chiens. Ben non, il ne les mange pas, il les renifle et le virus ne va pas passer par le nez. Par contre, le virus de la toux de chenille, il passe de naso à naso. Donc les chiens, ils se reniflent le nez, paf, le virus passe. C'est très, très rapide. Et c'est hyper contagieux, la toux de chenille. Donc c'est le seul sur lequel il faut être vigilant si le chien vit en communauté ou va dans des communautés. Moi qui ne suis pas pro-vaccin, ma chienne, je l'ai mis une fois en pension. La seule chose que j'ai fait, c'est de la vermifuger avant. Et je lui ai fait un vaccin toute chenille nasale la veille de la mettre en pension.
Ok. Et genre, j'avais demandé, est-ce que la vaccination comporte des risques ?
Alors, très honnêtement, les pépins de vaccination, on en a eu quelques-uns avec la leptospirose sur les 4 valences. On en a eu quelques-uns qui ont été cognés par le vaccin pyroplasmose, mais comme on ne le fait plus, c'est réglé. Tous les autres vaccins, on n'a jamais eu d'ennui. Alors, si un chien sur 100 va faire une petite réaction, une petite gonfle à l'endroit du vaccin, un petit œdème à l'endroit du vaccin, en général qui est bénin. Et puis on a de temps en temps, alors ça on le dit aux gens, sur certains vaccins combos, on ne sait pas quelle est la valence qui a provoqué le problème, on a un chien qui s'auto avec une tête d'hippopotame le soir du vaccin. C'est-à-dire qu'il fait un œdème facial, c'est une allergie à un des composants, à un des virus du vaccin ou à un des excipients du vaccin. Parce que les vaccins vétérinaires, on a la chance qu'ils n'aient pas d'aluminium. C'est les PureVax. Hein. C'est génial. Il y a un seul labo qui fait ça. Pareil, je ne cite pas le nom du labo, mais on a des PureVax très, très bien. Et sans aluminium, sans adjuvant. Et ils vaccinent très, très bien. C'est pour ça que nous, on dit aux humains, on a dit plusieurs fois aux ministres de la Santé successifs, mais enfin, pourquoi vous exigez l'aluminium dans les vaccins ? C'est prouvé que c'est toxique et c'est prouvé qu'il y a d'autres adjuvants qui marchent très très bien. Comme des carbonates, par exemple, de calcium, qui marchent très très bien, qui ne coûtent rien. L'aluminium est le seul oligo-élément de toute la pharmacopée, de tout le classement de Mendeleïev, le seul oligo-élément que le corps mammifère ne connaît pas. Donc c'est évident que de mettre de l'aluminium dans un vaccin, de boire tous les jours dans des canettes d'aluminium, c'est évident qu'on s'intoxique à l'aluminium. Donc pour les vaccins, en résumé, pas tous les vaccins, pas pour tous les chiens et pas tous les ans.
Voilà, il n'y a pas, désolé les auditeurs, il n'y a pas une réponse exacte pour la personne qui écoute. Il faut voir avec son vétérinaire.
Mais chaque cas est individuel. Mais bien sûr. Mais le principe de la médecine, de la médecine holistique, enfin, j'aime pas ce mot parce que ça veut dire la médecine globale, la médecine intégrative qu'on essaye de faire quand on fait de l'ostéopathie, de l'homéopathie, de la phytothérapie, etc., c'est d'individualiser le cas. C'est pour ça que la consultation est plus longue. C'est pour ça qu'intellectuellement, c'est plus difficile. Parce que deux chiens qui font la même maladie lors d'une épidémie quelconque, qui font la même maladie, même s'ils sont voisins, même s'ils sont frères, ils n'auront pas le même traitement. C'est l'individualisation. Faire passer tous les animaux comme on fait passer tous les humains dans les mêmes protocoles, de notre point de vue, ce n'est pas de la bonne médecine. La vraie médecine, c'est chaque animal est un individu, chaque individu a ses réactions, à son mode de vie, à son alimentation, à ses stress, à son environnement affectif, son environnement social, parce qu'on parle, le chien, c'est un animal social comme l'homme. Et donc, on sait très bien que les chiens qui vivent isolés, par exemple le chien qui vit tout seul avec madame qui est veuve depuis peu de temps, qui est déprimée, eh ben, il aura beaucoup moins de chances de guérir qu'un chien qui vit dans une famille avec des enfants, avec d'autres animaux. Et on le sait très bien ça. Mmh. Alors il y a pareil, je n'ai pas de statistiques pour prouver ça, mais tout, c'est qu'une question de bon sens, c'est même pas la peine de faire des théories là-dessus. On sait bien qu'on est des animaux sociaux hiérarchiques. Le chien, l'homme, le chat, pas du tout. Mmh. Le chat, c'est un animal individuel et territorial. Le chat, ce qu'il met par terre, c'est de changer de territoire. Déménager un chat tous les ans. Moi, j'ai des clients, lui, il est militaire, et elle est infirmière dans l'armée. Il change pratiquement tous les ans et demi de maison. Et le chat, à chaque changement de région, nous fait un sketch.
Pas.
Il nous téléphone de l'autre bout de la France, même des dom-toms, en nous disant « Bah ça y est, mon chat, il a ça, ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, on commence à le connaître bien, ce chat, il nous fait un sketch chaque fois que ça déménage. Alors que les chiens, ils adorent déménager parce qu'ils suivent la meute. Ce qui est important, c'est de suivre la famille.
Ils sont complètement différents. Mais pour revenir à ces vaccins combo et puis, on va dire, les autres vaccins qui sont spécifiques,
qui sont individuels,
individuels. Le vaccin combo, donc dans ces cas-là, vous dites que parfois, pour un chien adulte, il n'est pas obligé de faire ce combo tous les ans.
Ce qui tombe très très bien, franchement, c'est que dans ces combos, ce n'est pas des maladies annuelles, rappel annuel. Donc on peut le faire. Alors, globalement, on sait que la maladie de Carré tient 7 ans, que l'hépatite de Rubart tient 7 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des laboratoires indépendants qui ont étudié la durée d'anticorps sur les chiens en faisant des vaccinchecks. Eh bien, pourquoi faire tous les ans une maladie qui tient 7 ans? Dans le combo, il y a la parvovirose qui tient 2, 3, 4 ans. 3-4 ans même plutôt. Donc en faisant tous les 3 ans, nous on est tranquille. Ce n'est pas nous, nos petits vétérinaires dans notre coin qui avons inventé ça, c'est qu'on fait ça en fonction du laboratoire qui fabrique les vaccins, du meilleur laboratoire du monde qui fabrique les vaccins avec lequel on a un contrat de collaboration depuis 45 ans. Ça fait 45 ans que je vaccine avec les vaccins Merial. Je peux te dire le nom parce que Merial a changé de nom, a été racheté, etc. Mais Merieux, c'est un labo français, c'est le meilleur labo du monde pour les vaccins. Et ça, ça fait 50 ans que ça dure. C'est eux qui ont inventé les vaccins fièvreteuses, les vaccins rage, les vaccins maladies carrées, les vaccins parvovirose. C'est cocorico parce qu'on a un labo exceptionnel et qui vient d'être acheté, qui a changé de nom. Mais voilà, moi, je suis fidèle à ce laboratoire parce que c'est quand même bien qu'un laboratoire qui fabrique des vaccins vous dise non, il ne faut pas vacciner tous les ans.
Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc ce fameux combo, tous les 3 ans.
Tous les 3 ans. Nous, on suit les recommandations du laboratoire fabricant qui, par principe de précaution, nous dit tous les 3 ans. Donc même quelqu'un qui a oublié le vaccin et qui dit oh « ben, je l'ai oublié l'année dernière, j'ai 4 ans de retard », c'est pas grave. C'est comme les gens qui disent « ah ben, j'ai oublié le vaccin, ça dépasse de 3 jours ». Et refaire un vaccin qui dépasse de 3 jours, à part la rage, parce que c'est une obligation légale, on n'a pas le droit de dépasser la date anniversaire, mais dépasser la date anniversaire sur un vaccin annuel, comme la leptospirose ou comme la touche chenille, c'est pas correct. Les anticorps foutent pas ils n'ont pas un calendrier dans la tête à se dire « Ah bah tiens, c'est la date anniversaire, on se barre ». Mais c'est n'importe quoi.
Voilà, alors, donc, super intéressant. Donc, le combo, on va dire, tous les 3 ans, et puis après le reste, c'est au cas par cas, selon son mode de vie.
La lepto, c'est tous les ans, même tous les 6 mois sur les gros risques. La leishmaniose, c'est tous les ans. Maladie de Lyme, si on le fait, c'est tous les ans. C'est un vaccin qu'on ne fait plus parce que on pense que ce n'est pas le plus important. Moi, je l'ai beaucoup fait. Puis en fait, petit à petit, les consensus scientifiques des grands profs d'immunologie disent ça se discute.
La pyroplasmose,
on ne le fait pas. Voilà. Il n'a jamais très, très bien marché.
Tétanos,
c'est vraiment ciblé sur les chiens d'écurie qui vivent dans les écuries de chevaux.
Voilà, tous les ans. Et donc, on parlait justement des anticorps. Enfin, est-ce qu'il existe une alternative si on ne veut pas vacciner son chien tous les 3 ans? Comment on peut voir justement s'il y a toujours les anticorps? Vous parliez du VaxiCheck.
Ouais.
Est-ce que, moi aussi, j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? C'est quelque chose qu'on peut demander à notre vétérinaire?
On ne le fait pas. On trouve que c'est trop cher, que c'est presque plus cher que le vaccin. Par rapport au prix du vaccin et le prix du VaxiCheck, c'est presque c'est équivalent. Donc, en cas de doute, j'aime mieux refaire un vaccin que de faire un VaxiCheck pour me dire bah non, je suis déjà vacciné. En fait, prendre de l'argent à quelqu'un pour lui dire t'as pas besoin de vacciner ton chien, alors qu'intellectuellement on peut lui donner la réponse en fonction de ce qu'on sait déjà et en fonction de ce que les laboratoires fabricants nous expliquent sur leur propre vaccin. Qui connaît mieux un vaccin que le laboratoire qui l'a fabriqué? Un laboratoire qui joue le jeu de la vérité. C'est parce qu'on voit toujours en médecine humaine, mais nous en médecine vétérinaire, on a la chance d'avoir quelques laboratoires. Alors moi j'ai cité Merial pour ne pas le nommer, mais il y en a d'autres qui travaillent très bien. Donc peu importe, moi je suis un peu franco-français, donc un laboratoire français qui travaille bien, j'achète chez eux. Surtout qu'on a un support technique remarquable et qu'ils ont une antériorité sur la qualité de ce qu'ils font. Et moi, quand Merial me dit « tu vaccines tous les 3 ans, ça suffit », je ne fais même pas de VaxiCheck, je m'en fiche.
Voilà. Et VaxiCheck, ça consistait en quoi?
C'est une prise de sang qui va tester les anticorps en fonction de telle ou telle maladie. Si vous faites 5 VaxiCheck pour savoir dans le combo 5 valences, ça vous coûte une fortune. Franchement, le VaxiCheck, c'est presque pour s'excuser de ne pas revacciner. Je ne suis pas du tout convaincu par ça. Pas du tout.
En tout cas, ce qui est important, je pense, de dire, c'est en effet peut-être la vaccination, comme on a dit, le combo tous les 3 ans, mais ça n'empêche que c'est important de venir, je trouve, d'encourager les gens quand même de venir tous les ans.
Mais vous savez, si on fait une visite annuelle sur un chien, c'est comme si vous alliez une fois tous les 8 ans chez le médecin, en moyenne, en fonction de l'espérance de vie du chien. Est-ce que les maîtres vont qu'une fois tous les 8 ans chez le médecin? Sûrement pas.
Non.
Il y a très peu de... Enfin, dans les campagnes, on voit des gens qui ont jamais, à 90 ans, qui n'ont jamais vu le médecin. C'est rarissime, mais on voit ça aussi. Ou des gens qui sont négligents, qui ne se soignent pas. Mais une visite annuelle sur un chien, ça ne me paraît pas du luxe du tout. Alors moi, je dis bien aux gens, je n'appelle pas ça un vaccin, j'appelle ça une visite annuelle.
Exactement ce que je voulais dire.
Et on fera peut-être ou pas le vaccin.
Voilà.
Parce qu'il y a tellement d'autres choses importantes. On a parlé une fois des parasites externes, là on a parlé des tiques, mais le vermifuge, moi je suis sidéré de voir à quel point les chiens sont soit trop vermifugés, là on tombe sur des gens qui sont hyper anxieux, qui vermifugent trop, soit pas du tout, pas assez. Et alors sous prétexte de médecine naturelle, moi je suis très frappé de voir que dans ma clientèle, bien sûr les gens qui viennent me voir, c'est ceux qui recherchent une médecine naturelle. Il y en a beaucoup qui ne vermifugent pas parce que c'est des molécules chimiques. Ben oui, ben on n'a rien trouvé naturel qui vermifuge bien. Donc, on vermifuge avec des molécules chimiques. Mais là encore, on choisit les vermifuges en fonction de notre sensibilité. On choisit ce qui est validé depuis des dizaines d'années, ce qui n'a jamais donné d'intoxication depuis des dizaines d'années. Et dès qu'une molécule nouvelle sort, on se méfie. Et d'ailleurs, on fait bien de se méfier parce que souvent, il y a des molécules qui sortent. Puis après, on dit « Ah ben non, ça cogne trop. Ah ben non, il y a tel effet secondaire. » Eh ben oui, parce que en général, les labos sérieux font des tests longtemps à l'avance. Mais maintenant, comme tout est dans l'immédiateté, on trouve une molécule, hop, on la sort, puis on verra bien.
Et alors, est-ce qu'il y a certains chiens qu'il ne faut pas vacciner?
Alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, il y a des chiens qu'il ne faut pas vacciner. C'est un, si on ne fait pas d'examen clinique, ce n'est pas correct. Donc, examen clinique. 2, les chiens qui sont malades ou en cours de maladie ou en maladie fébrile, on prend la température. Si on ne prend pas la température lors d'une visite vaccinale, ce qui se passe en médecine humaine dans 99% des cas, ce n'est pas normal. Mais enfin, maintenant, ils prennent la température à distance avec des trucs thermiques. Mais nous, c'est thermomètre dans l'anus. Et voilà, les thermomètres dans l'oreille, on a essayé, ça ne marche pas bien chez le chien. Troisièmement, donc, examen clinique, on ne vaccine pas un chien malade. Une chienne gestante... On peut la vacciner. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas consensus. Ce serait bien qu'elle soit vaccinée avant parce qu'elle transmet ses anticorps pendant 3 mois à son petit. Donc on sait que pendant 3 mois, les petits ne risquent rien. Et ensuite, on fait un rappel à 3 mois. Et un rappel à 3 mois, le chien, il peut sortir tout de suite parce qu'il n'est pas protégé par la mère. Et ensuite, on fait un petit rappel de la vaccination que la mère a fait à son chiot par le colostrum. Si c'est sûr, si on a nourri les chiens au biberon, il n'y a pas eu de colostrum, le petit n'est pas protégé. Mais c'est rarissime qu'on nourrisse un chien au biberon du début à la fin. on les complémente avec des biberons éventuellement. Et les chiens qu'il ne faut pas vacciner, de notre avis, c'est les chiens qui ont une maladie auto-immune, qui ont une déficience immunitaire, et les chiens cancéreux. Les chiens cancéreux, franchement, le vaccin se discute parce qu'on provoque quelquefois un orage immunitaire. Si c'est un vaccin vivant, ça peut donner des gros problèmes. Et donc, un chien qui est cancéreux, c'est très simple. On augmente le vermifuge, on arrête les vaccins, on arrête les croquettes. On passe à un régime sans amidon, sans sucre. Et donc, tout de suite à prendre en compte ça. Et dans la visite annuelle dont on a parlé tout à l'heure, bien sûr qu'il faut faire, on parle de nutrition, on parle de parasitisme, on parle de parasitisme externe. Tous ces sujets sont importants à traiter. Il n'y a pas que le vaccin dans la vie, mais il y a aussi le vaccin. C'est ce que j'ai envie de dire.
Eh ben okay. Ben merci beaucoup pour toutes tes infos.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous !